Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous. Merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique. On s'aime fort, le podcast du jardin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On est le vendredi 12 avril. Ça y est, c'est parti pour un nouveau podcast. Lui, il n'est pas parti, il est resté. Même si je m'y mène la vie très dure. Non, ça va, non? Salut Eric.
Ouais, ça va Brice, écoute. depuis le temps que je te connais, je me dis, voilà, c'est, ça fait partie de notre train-train quotidien.
Oh là, pourquoi tu te plains?
Oh, pas du tout, j'ai dit train-train.
Ah, train-train, bon, ben, ça marche.
J'ai pas dit à fond de train, j'ai dit train-train.
Bon, quoi de neuf?
Bah, il fait un peu plus frais.
C'est un peu mouillé.
C'est un peu mouillé, mais bon, on a eu quand même début de la semaine des grosses chaleurs en Alsace. Hein. Je crois qu'un peu partout c'était pareil, avec des baisses de température qui ont été très fortes en ce moment. Voilà. Sinon, une belle pousse de la végétation. Voilà, une belle pousse de l'herbe, des graminées, des plantes globalement. Une biodiversité qui est assez efficace, pas mal de bourdons. Bon, là, ça s'est un peu rafraîchi, donc les abeilles sont un petit peu moins véloces. Mais comme dit beaucoup d'oiseaux, c'est bon, voilà, on est vraiment, c'est un véritable printemps.
Oui, c'est le printemps sans la case. Alors, hiver, on a eu un gros coup de froid, mais au final, je pense que c'est à peu près partout pareil, hein, un gros coup de froid, mais sans plus. C'est un petit peu le bilan, le mois de mars était le dixième mois le plus chaud, hein, c'est ça, on enchaîne les records, mais tout va bien. On va revenir à quelque chose de plus positif, puisque tu vas parler, après avoir chopé le melon, tu vas nous parler de la patate, mais pas que.
Bah, je vais parler de différents tubercules d'Amérique du Sud, et notamment pommes de terre et dahlia.
Oui, parce qu'on va le rappeler, le dahlia est une tubercule, et la patate aussi.
Aussi. Donc voilà, comme ça, ça permet de parler de, voilà, parce que souvent on parle des légumes, restons local et compagnie, mais il ne faut pas oublier que si on gratte un peu tous ces légumes et ces plantes, ils ne sont surtout pas de chez nous. Donc voilà, ça permet d'associer à la fois le potager et le jardin d'ornement. Et bien sûr, auditeurs et auditrices, il faut éviter de mélanger pommes de terre et dahlia, parce que c'est assez toxique.
Oui, donc éviter de manger le dahlia, éviter de planter la patate, ça ne fera pas la même fleur. On peut dire que c'est de l'Amérique du Sud juste avant, et on y reviendra bien sûr dans la troisième partie de cette émission, mais est-ce qu'on peut dire qu'au final, tous ces mélanges, la tomate non plus n'est pas européenne, hein, on va le rappeler.
Oui, non, mais c'est...
Est-ce que c'était finalement la mondialisation avant que cela devienne un problème?
Oui, mais c'était une mondialisation assez...
Heureuse.
Heureuse, ouais. Et surtout pas rapide, donc ça allait bien et on ne prenait ce qui nous intéressait.
Ouais.
Donc voilà, après, bien sûr, le dahlia, on appelle ça la tubercule des Aztèques.
Enfin, peut-être pas heureuse, parce que là-dedans, il y avait un peu de colonisation, donc on ne va pas revenir là-dessus.
Mais,
voilà, je retire le mot heureuse.
On ne parle pas colonisation.
Mais en tout cas, dans l'échange, est d'accord que... Alors,
après, on peut parler d'abricots, on peut parler et tout ça.
Oui, il y a plein de choses au final qui ne poussaient pas ici. Et à l'inverse, on a peut-être nous aussi exporté des choses dans d'autres contrées. Eric, je te propose de commencer avec le tempo. Alors, samedi 13.
Oui, là, c'est que c'est une fin de queue. Donc là, on a le 13 avril qu'on peut encore semer. Et à partir du 14 et 19 avril, on est plutôt seul avec les plantations.
Alors, rapidement, Tempo, vous le retrouvez évidemment sur notre blog. Bien sûr, comme chaque semaine, et puis dans la newsletter, on sème en pleine terre de la blé, de la betterave. Alors, si le sol est praticable, encore une fois,
oui, bien sûr,
c'est loin d'être le cas partout.
Oui, complètement. Le sol a du mal à se ressuyer. Faut savoir que le sol est égorgé en eau et surtout, le gros souci, c'est que ça a du mal à s'évacuer. Donc c'est pour ça que le sol est maturé en eau et donc c'est un peu compliqué de semer des petits trucs. Bien sûr, quand on va planter les pommes de terre les jours qui vont suivre, ça pose pas de problème. Mais et encore, faut pas que ça fasse non plus des grosses mottes sur les pommes de terre. Hein. Mais aujourd'hui, les semis sont un petit peu compliqués. C'est surtout pas le semis qui est compliqué, mais c'est le travail du sol avant le semis.
Et est-ce que finalement, tu nous donnes ta bénédiction pour après le 13 avril, c'est-à-dire dimanche et les jours suivants?
Oui, on peut semer.
Pour semer quand même, parce que malheureusement, voilà. On n'aura pas le choix.
C'est ça. Et surtout, ce qui est important aussi, hein, on peut travailler avec la lune ou pas, c'est surtout, de toute façon, le but du jeu, c'est pas tout semer en même temps. Hein. C'est-à-dire que si vous commencez à semer des carottes, hein, j'en connais... et c'est un premier semis, après il y en aura un deuxième et ainsi de suite, donc voilà, c'est les premiers semis, Et puis bien sûr, tout ce qui va être sous tunnel ou abri, ou un petit peu vraiment à l'écart des grosses pluies, tout ce qui va être pépinière pour tout ce qui est semis, pour après repiquer ses plants, voilà, on peut y aller quand même, hein.
Bon, donc là-dessus, même les grosses graines, hein, y a pas de souci, mais priorité quand même à la qualité de votre sol, on a bien compris. Après le 14, tu disais lune descendante, donc on plante en pleine terre, alors ail, oignon, échalote, pour la dernière fois, c'est ce que tu disais, mais en même
Oui.
temps, Eric, on ne pouvait pas le faire avant.
Non, 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 complètement. Moi, j'ai encore des oignons à semer. Et puis d'ailleurs, on le voit bien, hein, chez les parties, dans les surfaces et jardineries, il y en a encore à planter. Hein,
Oui,
donc, vous pouvez y aller.
donc faut y aller.
Voilà.
Attention, comme chaque année, aux filets qu'on achète, éviter les filets
Oui,
où c'est
voilà, parce que c'est les
moisi.
derniers. Voilà, il faut faire attention. Voilà, alors même si des fois les oignons que vous allez planter sont un tout petit peu ramollos, ça va passer aussi. Hein, voilà.
D'accord.
Donc ça, c'est bon. Et puis bien sûr, si vous en avez envie, bah, tout ce qui est choux de tout type. Hein, voilà. Avec des grosses questions chez les jardiniers et les jardinières. Est-ce qu'il faut planter des choux à cette époque? Moi, je suis de ceux qui diront non. Voilà. Surtout si on va se prendre un juillet, juin, juillet, août chaud. Il faut mieux repiquer, je dirais, à partir d'août, et surtout semer à partir d'août certains légumes. Comme ça, on profite plutôt des légumes d'hiver, l'hiver, quoi.
C'est la problématique du chou-fleur d'été où on sait très bien qu'il
Ouais, même des
adore.
chou-boules, hein, les chou-boules, il faut du temps. Alors, je sais, alors il faut vraiment savoir, est-ce que vous avez envie de manger des chou-boules?
En plein
Voilà, hein,
été,
tout
c'est
ce
ça
qui
que tu veux
est
dire.
chou de Milan, le chou rouge, alors moi j'aime bien tout ça. Même après, savoir est-ce qu'il ne faut pas mieux les acheter, parce que des fois c'est un peu compliqué dans certaines situations d'avoir des choux de grosse qualité, de gros
Oui,
choux.
et puis
Voilà.
tu disais, est-ce qu'on a envie de manger du chou-fleur en été? Est-ce qu'on a envie de
Oui,
manger
voilà.
du chou rouge en été? Bon, le brocoli, c'est sympa en été en vinaigrette, mais la
Ouais.
problématique, c'est que c'est pas aussi facile à cultiver. Voilà,
Non, ben
avec les grosses
voilà,
chaleurs.
voilà, alors peut-être on se trompe complètement, il va faire des températures tout à fait normales pendant la période et ça ira, hein,
On
peut-être,
est
hein.
d'accord.
Mais voilà, ne vous excitez pas sur le chou pour en mettre des grosses quantités. Et bien sûr, tout ce qui est laitue, en ce moment, il faut vraiment repiquer, ça c'est vraiment important. Hein, voilà. Et
Bien.
puis les pommes de terre, hein, comme je disais précédemment, il faut planter les pommes de terre, hein, plus qu'il ne faut. Si vous avez des pommes de terre qui sont montées en germe dans votre cave ou autre, ben vous enlevez les germes et vous plantez tel quel. Voilà. Toujours en respectant une distance de plantation. Je rappelle à peu près tous les 30 cm sur le rang et 50-70 entre les rangs. Et puis pour repiquage, en pleine serre, mais plutôt dans le sud, voire peut-être un peu partout, si vous avez une serre qui a un tunnel qui est bien fermé, ça peut être de repiquer quand même quelques tomates. Hein. Quand je vois tous les gens qui achètent des tomates en ce moment, je ne sais pas où ils vont les mettre. Alors peut-être qu'ils ont
Alors, tu parles en Alsace,
une zone.
Eric, hein,
En
voilà, oui,
Alsace,
bien
mais
sûr.
même voilà, sur le en nord de la France, je veux dire, voilà, il faut déjà quelque chose qui soit bien chauffé. Voilà, alors quand je dis chauffé, ce n'est pas forcément par du fioul ou de l'électricité, mais il faut déjà qu'il y ait une belle isolation de la serre pour voilà, s'il y en a un coup de froid, les tomates, ils aiment
On
bien.
va juste le rappeler, alors chez nous, du côté de Colmar, dites-nous, hein, vous, sur les réseaux sociaux, ce matin, on avait 4 degrés, voilà.
C'est ça, voilà, là je sortais justement du sud de l'Alsace, il y avait 3 degrés ce matin. Donc là, je dis, ça ne va pas faire crever le pied de tomate, mais bon, ça va l'affaiblir si vous avez repiqué. Donc d'où l'intérêt, si vous achetez plutôt petit, les plants pour les faire grandir chez vous ou les commencer à les mettre dehors et les rentrer. Donc là, ça veut dire qu'il faut les replanter de nouveau dans des godets plus grands et puis après jouer avec les cageots en faisant intérieur-extérieur. Bien sûr, hein, dans le sud de la France, en sud-ouest, voilà, sous serre, il n'y a aucun souci. Hein.
On va aussi évidemment parler de. Alors, on revient de la fête des plantes du parc zoologique et botanique de Mulhouse ce week-end. Et c'est vrai que on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sortaient avec des tomates. Et encore une fois, c'est pas du tout le moment de les planter parce qu'une tomate à 4
Ouais.
degrés, bon, c'est pas forcément les meilleures conditions. On va dire ça comme ça.
Tout à
On
fait.
est d'accord. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur cette histoire
Oui,
de
là,
tempo?
il n'y a pas de problème pour planter encore les fraisiers. Il y a des jolies promotions
Oui.
sur les fraisiers, quelles que soient les jardineries, quels que soient les acteurs. Attention, dans les promotions où les pieds sont tout secs. J'ai vu des jolies promotions aussi, mais c'est très cher pour de la terre qui est au fond d'un pot, parce qu'il n'y a plus la
Bien
plante.
sûr.
Parce que tout est sec. Voilà, c'est important. Et puis, bien sûr, les petits fruits, on peut bien sûr encore en planter. Mais attention, quand vous faites un trou de plantation, il faut mettre quand même pas mal de terreau dedans, terreau de plantation ou un compost mélangé avec de la terre pour compléter. Et faites attention, le pied est quand même très fragile parce que les pousses ont été quand même très importantes.
Bon,
Voilà.
Eric, il y a un point, tu parlais de fraises, mais ça c'est pareil, c'est quand même très très compliqué de le faire. Et puis au final, c'est quand même tout un, comment dire, un travail de préparation quand on a des terrains qui sont gorgés d'eau. Là, c'est compliqué. Puis c'est compliqué aussi de se dire, bon, ben, je planterai fin d'année à l'automne, parce que si on a exactement la même chose que ce qui s'est passé cette année. C'est compliqué, les 6 semaines de flotte, c'est compliqué de se dire. Donc, est-ce que
Oui.
concrètement, on peut encore mettre de la fraise? Oui.
Oui, on peut mettre. Alors moi, je dirais que ça vaut le coup, par exemple, d'attendre 2 3 jours. Et pendant ces 2 3 jours, vous couvrez le sol. Voilà, s'il y a des risques de pluie, avec une petite bâche, je dirais vraiment imperméable, voire des
Oui,
cartons. Comme ça, même si ça retient l'humidité, ça reprend pas une autre flotte
c'est
supplémentaire.
ça. C'est ça. Alors, on referme cette page du tempo. Et puis on va passer à vos questions, évidemment.
Ah oui, encore une petite info aussi,
Oui.
parce que je vois en déchetterie, là, les quantités complètement dingues de gazon qui sont apportées en déchetterie, parce que l'herbe est haute, hein.
Oui, bien sûr.
Là, attention, hein, vous pouvez garder ce gazon pour, bien sûr, repailler vos sols. Ça, c'est super intéressant. Même prévoir, par exemple, à l'endroit où vous allez mettre les futurs pieds de tomates ou de courge, bah, mettez vos tontes de gazon dessus. Ça va quand même améliorer, je veux dire, en nutrimentant votre sol. Parce que je trouve ça complètement dommage de le virer en déchetterie, quoi.
On va
Voilà.
rappeler juste les bonnes pratiques. Comme on dit, le gazon, on peut pailler avec du gazon.
Oui, bien sûr, on fait un paillage avant, ce que j'appelle, hein, c'est-à-dire, bah, vous couvrez votre sol pour justement couvrir votre sol pour éviter que la pluie lave le sol de ses nutriments. Et puis en plus, la décomposition du gazon, même si elle va plutôt libérer des nutriments qui seront directement pris par les plantes, bah, le fait de le mettre quand même en surface, vous créez quand même de la matière organique sur le sol et c'est quand même pas
En
mal.
fait, la clé, Eric, c'est pas de mettre 15 cm de gazon, quoi, c'est ça?
Non, mais non, 3-4 cm, c'est bien suffisant. Voilà, mais si vous en mettez partout, je dirais que là, on peut imaginer que dans le nord de la France, l'est de la France, 100% du potager, voilà, et à part quelques salades ici et là, et encore, c'est peut-être pas forcément un potager, bah, 100% du potager, il est vide. Donc autant d'en mettre partout du gazon, hein, même les tontes du voisin, et puis après, quand ça sera le bon moment, dès qu'il y a un coup de soleil, de toute façon, le gazon voilà, il va perdre une grosse quantité d'eau. Il va vite se décomposer grâce à l'action forte des vers de terre, parce que là, des vers de terre, ils sont très actifs, tout simplement parce que le sol est quand même un peu gorgé d'eau, il est souple, il est facile, il y a encore pas mal de matière organique à manger. Donc, si vous en mettez encore plus, l'activité des vers de terre sera plus importante. Donc là, vous pouvez même surtout pailler avec du gazon toutes les parties de votre jardin.
Et on le rappelle, tu parlais des petits fruits et des fraisiers avant, ça se paille aussi, hein, c'est ce que tu nous
Oui, alors
conseilles.
plutôt avec des déchets grossiers là,
Voilà.
de ce côté-là. Mais je reviens sur le gazon. Ce qui est important, que avant même de planter des fraisiers, vous pouvez mettre du gazon. Et dans 2 3 jours, s'il a fait vraiment un beau temps, ben, le gazon, il sera,
Il sera
voilà,
desséché,
il aura
quoi.
perdu, il va se
C'est
dessécher.
ça.
Et surtout, ce qui est important, c'est que le gazon que vous coupez en ce moment, à part quelques pâquerettes et pissenlits en fleurs, il n'est pas en fleurs, donc vous risquez pas de ressemer pas mal de choses dans votre gazon, de votre potager, pardon.
Dans le potager, oui, on est d'accord. Eric, je te propose de passer aux
Oui.
questions et aux réponses. Et enfin, tes réponses et les questions de nos auditeurs qui nous envoient sur contact@monjardinbio.com. On va commencer par Hélène qui nous dit: Bonjour Émile, merci pour votre remarquable podcast que j'écoute fidèlement depuis plusieurs années. Merci Hélène. Ma question, j'ai des piments du sud-ouest qui poussent en serre l'été et que je ressème chaque année en serre chauffante en février. Je les fais sécher en guirlande en automne et je les réduis en poudre. Certains s'abîment un peu lors du séchage, alors je les réduis en poudre à part et je voudrais savoir comment utiliser cette poudre comme insecticide au jardin contre les pucerons, les fourmis, avec quelle recette? Merci pour votre réponse et amitié à tous les deux.
Alors, il faut savoir que l'utilisation de poivre ou de piment pour contrôler les pucerons, faut vraiment en parcimonie, quoi.
C'est très fort, hein?
C'est très très
Ouais.
fort et ça peut brûler fortement les plantes. Et surtout, le pire, c'est le jardinier, la jardinière. C'est toujours délicat d'utiliser une eau de piment parce que souvent on en met un peu, on met beaucoup. Donc là, les proportions, je les connais pas comme ça. Il faudra peut-être que je les mette sur. Là, je me renseigne parce que je connais pas vraiment. Parce que ça, c'est un genre de. Le piment, j'utilise jamais. Hein. Vraiment, ça,
Mais
je veux surtout
attention
pas.
quand même, attention quand même, parce que c'est volatile, donc attention aux voies respiratoires, c'est ça,
Ouais,
Eric?
c'est ça. Moi, je m'en suis mis dans l'œil une fois et c'est terminé depuis il y a une dizaine d'années.
Ouais.
Je vais faire un test comme ça, voilà, comme tout à chacun, et j'avais mal lavé mes mains.
Voilà. Ah, c'est horrible, tu es en train de couper des poivrons tout d'un coup, tu te frottes l'œil, c'est horrible.
Non, mais c'est pour ça, donc moi, le poivron, c'était. Enfin, le poivron fort, le piment, je vais sombrer. Je connais pas vraiment les proportions, voilà, on peut se renseigner, parce que c'est vrai que j'ai un désintérêt totalement pour cette technique. Mais je pourrais chercher. Pas de
soucis. Alors, après, donc faites attention, bien sûr, on est d'accord, hein, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu dis dès le début. Faites vraiment, vraiment, vraiment attention à la partie contamination éventuelle autour des muqueuses. On va le rappeler, hein, nous, on a commencé Mon Jardin Bio avec un produit qui s'appelait Phytomix, qui est de l'ail et du piment, qu'on vend depuis des années. Et justement, là, c'est dosé. Ce qu'il faut, mais on va le rappeler que la molécule qui pique justement dans le piment est assez efficace contre les pucerons. Alors les fourmis,
oui, c'est vrai.
Dans ce podcast, on n'a rien contre elles, mais en tout cas, la question de la poudre, c'est aussi de se poser, si tu mets ça sur tes plantes, non seulement tu risques de les brûler, c'est ce que tu nous dis, mais aussi c'est l'application, parce que...
Oui, c'est l'application, ouais, j'ai toujours, comme dit, hein, si je n'en suis pas au courant, c'est que vraiment...
t'évites, quoi, c'est ça l'idée.
Très mauvaise expérience, et voilà, donc voilà. Mais il n'y a pas de souci, je vais me renseigner auprès de professionnels comment ils le font.
Bon, voilà, en tout cas, ça c'est bien noté. Eric, je te propose de passer à Christelle qui nous fait un petit coucou et qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice. Encore une fan de votre podcast, vous m'avez beaucoup aidé en me confortant de la manière de faire le potager en répondant à la plupart de mes questions. Et je vous remercie, j'ai acheté votre livre lors de ma précédente commande avec les olas dont je vous avais passé commande l'an dernier et j'en suis très content. Donc merci en tout cas Christelle. Après l'avoir feuilleté, je le trouve très bien, clair et concis. Je vous ai recommandé trois autres, je vous en ai recommandé trois autres pour mes amis et mon papa, qui est un jardinier traditionnaliste. Alors j'aime bien l'expression parce qu'elle nous met un petit smiley, Christelle. J'aimerais vraiment que vous me dédicassiez un exemplaire pour moi et pour mon amie Sophie, à qui j'ai fait découvrir votre podcast pour son nouveau jardin étonnamment grand pour la région parisienne. Merci d'avance et bonne continuation. Et ben écoutez, Christelle, envoyez-nous un mail spécifiquement avec votre adresse de façon à ce qu'on puisse du coup procéder à cela. Voilà. Je vais souvent en Alsace et j'espère pouvoir un jour passer à la boutique. Alors on n'a pas de boutique, hein, on est uniquement sur internet, mais on a des bureaux. Voilà. Eric, on passe chez Nicolas, l'Alsacien, qui nous dit bonjour et merci beaucoup pour votre merveilleux travail. Je vous écoute régulièrement et j'apprécie vos précieux conseils. Alors j'ai une question concernant le figuier. J'habite en plaine d'Alsace. J'aimerais planter un figuier. J'ai pas beaucoup de place, mais j'ai identifié un endroit dans une haie champêtre qui me sépare de mon voisin. J'ai donc un espace d'environ 1 mètre au rayon et 2,50 m en hauteur. Alors est-il possible d'y faire pousser un figuier et de le maintenir par une taille pour le conserver dans cet espace? Donc pour avoir un figuier sous forme de buisson, et est-ce que l'emplacement est suffisant? Deuxième question, comment tailler le figuier? Et est-ce préférable de choisir un figuier bifère ou unifère dans notre région? Merci beaucoup et à longue vie à votre podcast.
Alors la place est suffisante, hein, bien que ça il demandera plus, mais il faudra un peu le tailler, quoi. Le laisser monter plutôt en hauteur, hein, 2,50 m, je trouve ça très bien. D'ailleurs, on peut même, moi par exemple, j'ai un figuier qui n'a pas plus de, voilà, qui a pas plus d'espace, en sachant que le mien, je l'ai mis sur tronc, hein, donc c'est-à-dire à 80 cm de hauteur, et puis à partir de là, par une touffe, tout simplement. Comment il faut le tailler, c'est très simple, hein, vous évitez qu'une branche soit l'une sur l'autre. On n'est pas en production de figuier professionnel, on est en production de, on est plus près de la cueillette, je dirais, sauvage que de la production de figuier, hein, de figues. Donc là, c'est vraiment très très simple. Alors le choix, il est très simple, hein. C'est pas une histoire de savoir si c'est une fois ou deux fois. Le choix est très simple, c'est que de toute façon, il est encore temps de le faire. C'est que Nicolas, il va essayer de trouver un figuier autour de chez lui où les figues sont bonnes, et il va le bouturer. Et des fois, c'est la meilleure expérience, parce que trouver la variété qui correspond, il ne trouvera jamais, parce que souvent, c'est des dons de figuiers, on peut en trouver. Mais plutôt de trouver un figuier qui est bien protégé, à proximité de chez lui, et des fois, au lieu d'avoir deux récoltes, on n'a plus qu'une, c'est aussi bien, parce que la quantité est importante. Des fois, les deux récoltes, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que ce que je propose, c'est qu'il a plutôt, il a peut-être repéré un figuier quelque part, il a encore temps de les bouturer, hein, c'est vraiment la dernière limite, hein. Il prend une branche de l'année 2023, il la met de moitié dans le sol, et d'ici 3-4 ans, il aura 10 figues.
Voilà, en tout cas, Nicolas, pour les précieux.
Moi, mon figuier, j'ai un figuier qui n'est pas plus grand que l'espace, hein, voilà, concerné. Et c'est non pas dans une haie champêtre, mais plutôt en système d'agroforesterie, c'est-à-dire une rangée de framboises, un figuier, une rangée de framboises qui suit.
Au niveau du climat, alors qu'on connaît bien, il n'y a aucun problème, on est d'accord. Ouais, c'était pas le cas il y a 15 ans, Eric, hein, on est d'accord. C'était pas le cas il y a 10-15 ans.
Bah, il y avait des doutes. Hein. Ceux qui avaient, c'était toujours des personnes d'origine portugaise ou turque qui avaient ramené ça ici et là. Et puis aujourd'hui, faut savoir que grâce à ces personnes-là qui ont introduit des variétés de figuiers de leur famille et autres, bah, il y a eu des figuiers. Souvent, ce sont des jardiniers, des jardinières qui ne supportent pas que ça ne produise pas. Donc ça veut dire, s'il y avait une problématique sur un figuier, bah, ils ont complètement viré tout de suite, ils l'ont enlevé pour mettre à la place un figuier productif. Donc c'est pour ça, il faut faire confiance à proximité, qu'il y ait des figuiers, que ce soit en ville ou que ce soit dans le milieu urbain ou urbain. Vous trouvez des figuiers comme ça et si vous sonnez, vous dites « est-ce que je peux couper une branche de ça ?» À mon avis, il n'y aura pas de souci.
Bien.
Ou s'il n'a pas encore l'intention de bouturer pour l'année prochaine, de repérer vraiment un figuier dans son quartier cette année et de bouturer les prochaines.
Bien. Eric, on va passer à Sandrine qui nous dit bonjour et je me permets d'apporter un élément de réponse, mais malheureusement pas de vraie réponse à la question posée par une auditrice concernant la pollinisation croisée d'un Elagnus umbellata avec des chalefs ebbinghei, hein, c'est ça. Hein. Il me semble qu'ils n'ont pas les mêmes périodes de floraison. C'est ce que j'avais noté en tout cas. Le premier, c'est plutôt mai-juin et le deuxième, c'est mars-avril. Ce qui m'étonne, c'est que l'auditrice dit que son Elagnus est en fleur. S'agit-il vraiment de cette variété?
Parce qu'il... Oui, c'est pour ça que c'est toujours très compliqué. De toute façon, même pour les pommiers, les poiriers et les autres arbres fruitiers, la correspondance de floraison est importante.
C'est le décalage. Est-ce que c'est pire ou finalement
Quand il y a un décalage, de toute façon, il n'y a rien du tout. Hein. Comme ça, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de sujet possible.
Voilà. Mais il faut savoir aujourd'hui, et c'est ça qui est très compliqué sur le conseil, c'est que vous avez dans l'espèce des variétés qui sortent, alors plutôt des fois c'est sur la précocité, des fois c'est plutôt sur la tardivité du produit, la production, des fois sur la quantité, sur le goût, sur la couleur. Aujourd'hui, il y a tellement une gamme de produits, de variétés pour une même espèce que c'est très compliqué de pouvoir répondre, tout simplement. Il y a sûrement des tendances sur ce type d'arbre, de toute façon, je vous le dis toujours. Même si c'est une variété qui accepte une fécondation, une auto-fécondation, la fécondation croisée souvent apporte un petit plus. Je le vois bien sur des cerisiers, certains cerisiers, notamment cerisiers griottes, que l'auto-fécondation est acceptée et acceptable. Bah, des fois, quand il y a une fécondation croisée, c'est quand même mieux. Donc voilà, c'est pour ça que je dis tout ça, mais c'est clair. Et l'auditrice a complètement raison. La concordance des floraisons, c'est quand même quelque chose qui est le plus important.
J'en profite pour vous remercier pour votre podcast où des fois, effectivement, il peut y avoir des échos. Oui, il y a des fois des bruits, mais vous proposez un contenu disponible pour tous et un savoir en toute gratuité. Et je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors, Sandrine, encore une fois, on essaie normalement. La dernière édition était plutôt meilleure. On a abandonné l'IA et puis j'ai passé 2 heures à monter et à essayer de refaire les balances. Voilà, Sandrine. Eric, je te propose de passer à Oda qui est dans le sud de l'Eure. Bonjour à vous deux, je vous remercie pour votre podcast, pour la début.
Quel joli prénom.
Oda, oui, H-O-D-A, voilà. Je vous remercie pour votre podcast, pour la débutante que je suis. Il y a plein d'apprentissages. Dans mon jardin, qui est en lisière de forêt, j'ai depuis cette année une invasion d'arômes sauvages avec des petites fleurs jaunes. La prolifération est exponentielle et je ne sais pas comment m'y prendre pour que l'herbe ne soit pas entièrement infestée. La partie où vous débutez le développement de cette plante est assimilable à un sous-bois avec une exposition semi-ombragée. Avez-vous des conseils à me donner? Je vous remercie par avance et à vendredi.
Alors aujourd'hui, le mot d'ordre pour toutes les plantations, là, je faisais une formation auprès d'agents de collectivité et je leur ai appris une phrase, c'était la bonne plante au bon endroit. Bah, votre arôme, il est au bon endroit, c'est pour ça qu'il se développe fortement avec une puissance de graines dans le sol qui est importante. Donc ça va être compliqué de l'enlever hormis le côté manuel. Voilà. Est-ce qu'il faut l'enlever? Je dirais pas forcément oui, parce que vous pouvez le laisser. Hein, ça. Sauf vraiment si ça vous plaît pas du tout. Mais voilà, après, il n'y a pas forcément de concurrence avec les plantes. Hein, donc,
Alors, on va le rappeler, hein, c'est bien en lisière de forêt et ça se développe.
Ouais,
C'est
une plante de fraîcheur, d'humus. De matière organique, ça sent bon la forêt. Donc si elle est présente, c'est que là, c'est la bonne plante au bon endroit, peut-être même mieux que les plantes que l'auditeur ou l'auditrice voudrait planter. Mais voilà, c'est comme ça. Alors après, vous pouvez les enlever, mais manuellement, c'est le plus simple, quoi. Alors des fois, ce qui se passe, c'est de les enlever à la tondeuse. Hein. C'est quand de temps en temps que vous passez un coup de tondeuse, bah, vous allez limiter la prolifération par semis. Mais sinon, je vois pas plus que ça. Enfin, j'ai pas connaissance d'une incompatibilité avec d'autres plantes du jardin. D'ailleurs, elle est très présente dans un système ligneux, arbustif, herboré.
Donc un coup de tondeuse ou alors finalement la pioche, quoi, c'est ça l'idée.
Oui, ou le laisser, hein, je veux dire, voilà, moi je suis.
Bien, voilà en tout cas.
Attention aussi, ça ressemble des fois à des feuilles de muguet. Alors ça, c'est pas très grave parce que bon, en principe, on ne mange pas. Mais là, la feuille d'ail des ours, hein, je me suis fait un jour. J'avais une personne j'avais pas trop confiance en elle. J'ai bien fait parce que c'était de l'arôme et non pas de l'ail des ours. Hein, donc.
Oui, c'est pas le même résultat derrière. C'est pas le même résultat derrière. On va le rappeler, hein, l'arôme est toxique. Bien, alors, j'ai pas le nom, pardon. J'ai juste un message Anne Dao qui nous dit urgence, érable malade. Je t'ai envoyé la photo, Eric. Salut vous deux. Merci pour vos podcasts enrichissants, réjouissants et décomplexants que j'écoute avec assiduité depuis 2 ans. Bah, ça, c'est de la fidélité, dis donc. Hein, merci. Grâce à vous, mon tout petit jardin de ville est devenu au fil du temps un repère réputé pour les oiseaux, vers de terre et abeilles. Quel plaisir. Oui, parce que c'est vrai que. Il y a aussi ce mouvement, hein. On réensauvage un peu les centres-villes. C'est vrai qu'il suffit, il suffit de mettre un petit peu de végétal. Ça butine vite, hein, Eric. Et
Oui,
c'est
de
ça
toute
qui est
façon,
bien.
moi je le dis, hein, faut voir les gens globalement, et je l'ai encore redit récemment, il y avait une conférence dans la Maison Nature qui était organisée par la Maison du Nature du Sungo. D'ailleurs, voilà, à François, je devais répéter un mot aujourd'hui. C'était un petit jeu entre nous, mais je ne me rappelle même plus
Ah
du
bah tu
mot.
le noteras la
Alors,
prochaine
voilà.
fois, tiens.
Je noterai
Voilà.
la prochaine fois. Le truc, bonjour à Peggy, à son épouse hein, qui est assidue. Voilà. Faut savoir que je le racontais aux gens. Je dis, bon, les gens, il y avait 55 personnes qui étaient présentes là, à Bernevillers. Et moi, je leur ai bien expliqué que globalement, peut-être pas eux qui étaient présents, mais les gens, ils ont un peu rien à faire de la
Ouais, c'est ce que
biodiversité.
tu disais la semaine
Voilà.
dernière.
Voilà. Donc là, je leur ai redit. Par contre, dès qu'on va mettre un milieu de vie, dès qu'on va créer une source de nourriture, une source d'habitat, en améliorer ce qu'on appelle le cadre de vie et de vue, automatiquement il y a de la biodiversité qui arrive. Hein. Dès qu'il y a une fleur, bah, il y aura les abeilles, surtout si c'est la plante un peu plus sauvage ou mellifère. Dès qu'on va créer de la flotte, il y aura une libellule. Dès qu'on va créer un arbre, on va avoir un arbre et on va le laisser pousser, bah, il y aura bien un oiseau qui va s'y poser. Il y aura de l'écorce, il y aura des bestioles. Donc là-dessus, dès qu'on va créer des milieux de vie, ça marche. D'ailleurs, on a bien remarqué, hein, si vous faites l'inverse. On veut bien protéger le lynx, mais si on laisse pas la place au lynx de divaguer dans la montagne, bah, il n'y aura pas de
On
lynx,
est
quoi.
d'accord.
C'est le milieu de vie qui est important.
Je continue avec le message. Je vous joins 2 clichés d'un problème
Ouais.
concernant un érable qui est malade au pied. Je lui fais un pansement avec la terre de topinière l'année dernière, mais l'écorce des troncs continue à
Ouais, là
s'ouvrir,
c'est.
même s'il n'a jamais fait
Ouais.
autant de feuilles que cette année. Merci pour votre aide et longue vie à votre émission.
Ouais.
C'est grave, docteur?
Oui et non, c'est-à-dire que l'arbre va pas mourir, hein, c'est-à-dire que l'arbre a été un petit peu attaqué au début au pied, hein, donc elle a moitié. On voit apparaître ce qu'on appelle le tronc de l'arbre au centre, hein, c'est-à-dire le piquet de l'arbre qui le tient droit. Bah, tant qu'il a assez de grandeur là, bah, cette fragilité ne fera rien, va pas poser de problème. Il va pousser complètement doucement, sauf que bah, comme le piquet de l'arbre est, je dirais, à nu. Il risque d'être voilà, envahi par des bestioles s'il souhaite le dégrader. Et surtout, ça risque de faire une zone de fragilité.
Fragilité, c'est mieux.
Ouais, c'est pas mal ça d'ailleurs. Zone de fragilité, c'est-à-dire bah, à un moment, quand l'arbre sera grand, bah, il peut casser à cet endroit-là. Bon.
Mais le coup de la terre de topinière, très bien.
Oui, ça va le. Mais là,
Il est quand même très
Enfin, s'il
attaqué, hein.
continue de pousser, il va continuer de pousser. La seule chose, c'est qu'il y a quand même un beau risque d'intrusion de bestioles. Alors des fois, alors je sais que je peux être drastique sur des moments comme ça. Ce qui est possible de faire, c'est-à-dire que jusqu'en bas, l'arbre a des capacités de se régénérer. C'est-à-dire que si vous le coupez à ras à 2 cm du sol, il va refaire des troncs et des branches qui ne seront jamais malades. Voilà.
Donc,
Ah
quoi,
ben là, faut oser.
limite, ouais, limite un
Ce que je viens
recépage,
de
quoi.
dire, c'est oser, hein, voilà.
Mais cette
Mais
solution
le
existe,
fait,
limite un recépage.
voilà, un recépage total, très très bas,
Ouais.
mais vraiment très très bas. Vous dégagez un peu la partie un peu basse sur 2-3 cm et ça repartira d'ici automatiquement.
Bien, voilà, en tout cas, à vous de
Mais
choisir.
c'est gonflé, hein, ça va vous faire
Mais
peur.
pour l'instant, c'est pas très grave. C'est ce qu'il faut
Non,
retenir.
voilà.
Estelle qui nous dit bonjour et merci pour votre podcast très intéressant. Voici ma question. Je suis en location dans une petite maison de village avec un petit jardin d'environ 200 mètres carrés. Quand même, le jardin était complètement envahi par des plantes.
Justement, j'allais dire quand même.
Ouais. Exotiques, envahissantes. Rien de plus ne poussait et rien d'autre ne poussait. Alors j'ai demandé au propriétaire de tout enlever, ce qu'il a fait cet hiver, et je réaménage maintenant en laissant la priorité à la biodiversité. Malheureusement, nous arrivons au printemps et les souches de ces plants repoussent ardemment. Alors comment les éradiquer définitivement, sachant que les souches sont énormes et très profondément implantées. Merci beaucoup, signé Estelle. Eh ben, vive la pioche.
Tu peux me rappeler le nom de la plante que j'ai pas.
Alors non, il y a en fait le jardin est envahi de plantes exotiques. Il y a pas d'espèce.
Non, c'est-à-dire que on peut au fur et à mesure les enlever, mais il y a des espèces qui ont une capacité de repartir sur les racines présentes, voilà. Notamment les plantes qui ont une capacité à être OCP. Vous faites ça des fois avec un chêne, vous faites ça avec un sapin. Bah, une fois que vous avez coupé, vous avez coupé. Alors que quand on le fait avec beaucoup d'arbustes ou d'arbrisseaux qui sont plutôt exotiques,
ouais,
qui ont une capacité de pousser de la base en CP, quand vous allez le faire, ça va redémarrer. Alors des fois, il y a une solution qui marche très bien quand vous avez une grosse souche. Moi, je fais comme ça pour éviter que ça redémarre. Vous faites un mouton à la broche ou un barbecue
sur la souche, ouais.
Voilà, comme ça. Ouais. Non, mais voilà, ouais. J'ai déjà fait ça sur du laurier, je savais pas quoi faire, j'avais pas envie de prendre la pioche. Et donc, comme ça, vous brûlez simplement l'endroit où est la souche, donc tous les yeux dormants vont être brûlés et ça redémarre.
Allez, on fait un petit inventaire de ce qu'il faut surtout pas faire. Pas d'essence, pas d'acide.
Ouais, pas d'essence.
Qu'est-ce qu'il y a encore?
Pas de sel non plus. C'est pas,
pas de destructeur de souches.
Des grosses souches. Surtout pas ça. Faites des trous dans la souche, ça va. Il y a de la flotte qui va rentrer dedans, voilà. Et puis surtout, ce qui est le plus important, c'est tous les 15 jours, de vérifier s'il y a des redémarrages et au fur et à mesure de les enlever, il y aura de moins en moins.
Effectivement, des trous à la perceuse pour que l'eau rentre. Et puis, il se raconte aussi en Alsace que je t'avais fait le coup, je crois, il y a 2-3 ans. Je ne sais pas si tu connaissais ça.
Oui.
Des 2-3 coups et puis le master coiffé dessus. Apparemment, ferait pourrir les souches. Alors là, encore une fois, on parle de souches d'arbustes. Mais c'est le bon courage. Et puis sinon, c'est vraiment la pioche, hein, clairement. Hein. Faut...
Oui, il faut. Voilà, c'est
un boulot. Complètement, on est d'accord. On a une question sur les ravageurs d'Hélène. Quelle merveilleuse découverte! Il y a un an, depuis, je vous suis assidûment. Ma question concerne les ravageurs, principalement des fruits. J'ai 3 vieux pommiers qui n'étaient pas entretenus avant mon arrivée, ainsi que 2 poiriers et 1 cerisier. Tous les ans, je n'ai pas un seul fruit non véreux, alors que mon voisin n'a rien. L'an passé, j'ai mis des pièges à phéromones sur les pommiers. Aucun succès. J'ai dû me résigner à couper un poirier car il était haut et vieux, donc inatteignable. Alors, je sais que j'ai forcément des mouches différentes. En revanche, je ne sais pas comment lutter. J'ai entendu que certaines espèces mettent des larves dans l'écorce et qu'il faut traiter à l'automne. Malheureusement, le badigeon ne marche pas. Est-ce que parce que j'ai traité trop tard, que puis-je faire d'autre à part laisser les vers sortir dans de l'eau additionnée de vinaigre avant de les manger? Je rêve de voir mes enfants grimper et manger. Merci pour vos précieux conseils et votre bonne humeur contagieuse. Signé Hélène. Alors là, bon courage.
Bon, pour les pommes et les poires, c'est souvent c'est du carpo caps, voilà. Hein, le carpo, voilà. Aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de produits utilisables par les particuliers pour limiter les carpos.
Tu connaissais la carpovirusine, toi?
Oui, carpovirusine, ouais. Qui est utilisée par les professionnels.
Qui n'est plus autorisée pour les particuliers, on va le rappeler.
C'est ça, voilà. C'est clair, alors. Si le voisin n'en a pas, j'ai un doute sur le non-traitement, alors qu'il peut être un traitement qui peut être fait à partir de produits d'autorisation d'agriculture biologique ou par les amateurs. Hein. Je stigmatise pas du tout le particulier. La biodiversité, si elle était importante de son côté pour limiter les carpocases, elle serait aussi importante de son côté aussi. Donc par rapport, par exemple, les oiseaux et ou les chiroptères, hein, tout ce qui est la chauve-souris. Ça, c'est le fait de faire une taille qui est quand même, je dirais, pas trop soutenue, va permettre d'éviter d'avoir des pousses un peu trop idiées et surtout envahies de pucerons. Donc, ça sera déjà une belle chose. Hein, donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a des variétés de pommes ou de poires qui sont plus sensibles aux carpocaps que d'autres. Le fait de créer un milieu de vie ici et là va limiter la population, je dirais, de carpocaps, hein, qui sont des papillons qui se reproduisent je dirais au crépuscule. La lumière favorise la reproduction. C'est pour ça que des fois, les quartiers qui sont complètement lumineux ou les lampes qui grillent toute la nuit, même si c'est des lampes qui sont pas qui consomment peu d'électricité, il faut mieux avoir rien du tout. La nuit noire est favorable, je dirais, à la non-reproduction des insectes de ce type et surtout à la capacité qu'ont les chiroptères, donc les chauves-souris, à manger. Donc moi, je mettrais des refuges à chiroptères. C'est deux planches de bois qui sont l'une à côté de l'autre, hein, des refuges à mésange. Bon, ça, il aurait fallu le faire un peu plus tôt. Mais voilà, mais je crois que ça peut être une bonne solution, déjà dans un premier temps, pour limiter les invasions.
Alors, oui, les invasions barbares de mouches et autres. Alors, plus il y a de la vie, maintenant, c'est compliqué. Alors, je complète, Eric, et puis tu ouais. corriges aussi. Dans les moyens de lutte, ce qui se vend aujourd'hui sur le marché, ce qu'on fait, hein, il y a trois points. Il y a effectivement les pièges à phéromones, mais on est très transparent là-dessus, très concrètement. C'est pas un risque zéro, ça permet de diminuer la pression, encore faut-il bien les installer, changer régulièrement les phéromones qui diffusent. Une phéromone, ça tient à peu près 4 semaines, hein, 3-4 semaines, surtout quand il fait très chaud. Nous, on travaille par exemple sur des capsules de cire, donc forcément, la cire étant naturelle, c'est plus des bouts de plastique, c'est de la cire, donc forcément, elles fondent beaucoup plus vite quand il fait très chaud. Donc là, il faut régulièrement les changer pour avoir un pouvoir d'attraction. L'idée, c'est de le mettre aussi bien situé dans l'arbre. Deuxième point, Hélène le disait, à l'automne, on peut pulvériser de la nématode, des petits vers microscopiques sur le tronc, sur les environs. La troisième méthode, c'est de lâcher les poules en dessous. C'est bon ça, Eric ? On est d'accord ?
Oui, c'est bon.
Ça permet
d'avoir des poules.
Avoir les poules, voilà, c'est peut-être le moment. Il y a aussi le badigeon qui permet aussi de maintenir. Le carton.
Oui, le badigeon qui peut être fait à partir de terre argileuse.
C'est ça. Hein,
voilà. Donc ça peut être intéressant donc pour les infructus, et ça va améliorer la qualité de l'écorce, donc ça peut être
et ça évite des planques aussi à bestioles. Le carton brûlé, puisque le carpeau va redescendre le long du tronc, donc ça c'est à partir de août en général. Du carton ondulé,
ouais, moi je le mettrais très rapidement,
même plus tôt,
fin juin début juillet, parce que voilà, avec le changement climatique, les évolutions des bestioles font que les cycles avec des dates bien déterminées, maintenant j'y crois plus. Donc
dès juillet, le carton. Bon, il y a le filet, mais c'est juste une barrière à oiseaux et c'est très compliqué à mettre. Vous avez un gros coup de vent, il n'y a plus de filet, donc ça, j'y crois moyen, en tout cas pour les gros arbres. Et puis après, le quatrième levier, on a aussi des traitements à base d'argile, etc. Mais alors, ça peut sur les petits, sur les grands, c'est très compliqué d'essayer de maintenir, mais ça permet de créer des barrières physiques. C'est homologué, c'est utilisé en agriculture biologique. Le problème, c'est que vous prenez un orage de 25 mm, vous n'avez plus rien, faut recommencer. Donc voilà, il y a ces petits trucs.
Voilà, et puis des fois sur des beaux fruits à proximité un peu
sachets.
Plus bas et qui sont faciles. Pardon,
les sachets,
voilà.
Sachets papier. Non, sachets. Voilà, c'était le dernier. Donc.
Alors maintenant, il y a des sachets papier qui sont réutilisables. Voilà, mais bon, voilà, c'est compliqué. Comme dit, il n'y a pas une méthode. Il ne faut pas oublier que les fruits, s'il y a entre 20 et 25 traitements qui sont faits dessus chez les professionnels, c'est pas pour rien.
Oui, et c'est de plus en plus compliqué. Et encore une fois, on va le rappeler, chute de biodiversité, parce que le carpeau, on n'en avait pas il y a 20 ans, on en avait très peu. Mais là, ça devient de pire en pire. Et l'objectif, c'est justement d'installer le plus de biodiversité.
Oui, l'absence d'hirondelles, l'absence de chiroptères, l'absence même d'oiseaux au printemps pour manger, quand il y a les nichées. Voilà, c'est... Le changement de rythme aussi, trop tôt. C'est-à-dire que là, c'est trop tôt, les fleurs arrivent trop tôt. Ouais. Il y a plein de choses comme ça qui fait que c'est un petit peu compliqué.
Alors, je vais vous raconter ma vie, mais j'adore raconter ma vie pour le coup. J'étais tout à l'heure, juste avant de commencer l'enregistrement au compost, et puis j'ai un mur qui est rempli de lierre. Alors, de lierre et de lierre avec des petites boules bleues. Je sais même pas si c'est un lierre, c'est une espèce de lierre, bref. Il y avait un merle mâle qui était en train de se régaler de ses petites boules. Bah rien que ça, regardez, ça fait un peu maison abandonnée, ça fait un peu, mais rien que ça, le merle, il était tout content parce que il avait ses fruits entre le bec, il mangeait, il faisait des allers-retours, il mangeait. Bah rien que ça, regardez, ça donne un point de nourrissage. Là on est pas en train de distribuer des graines.
Hein. Oui, c'est le lierre terrestre le lierre, qui n'est pas le lierre terrestre, les fleurs bleues,
un des lierres
que vous avez trouvé dans le gazon, mais le lierre que vous trouvez, qui fleurit, fin de l'année, et qui, avec la production de fruits au printemps, et qui permet de nourrir les oiseaux, et ainsi de suite. Donc, c'est dès qu'on va créer un milieu de vie, et surtout, c'est le retour à l'hirondelle, c'est le retour, je dirais, à la chauve-souris qui est très important.
Réensauvageons, je mets des gros guillemets devant ce gros mot.
Oui,
hein,
alors
mais
après l'ensauvagement, voilà, il peut être très structuré en mettant des refuges à oiseaux chez les voisins, chez le voisin, là, il doit être sympathique, donc il faut lui en mettre chez lui aussi.
Voilà.
Et comme ça, ça permet de limiter la prolifération des insectes.
On va terminer par Caroline, qui nous dit « Hello Brice, hello Eric, merci pour votre émission inspirante que j'écoute avec bonheur depuis Bruxelles. J'y aide depuis 3 ans en jardinette ville qui m'apporte beaucoup de joie de nous envoyer des photos, c'est vraiment très beau. Malgré sa petite taille, la terre est fertile, orientation plein sud, idéal. Hein, j'y ai planté framboisiers, pruniers, groseilliers, pommiers, vignes, tomates, pommes de terre, courges, capucines, fleurs à foison. J'observe beaucoup et je laisse faire dame nature en intervenant le moins possible. Mais malheureusement, depuis 2 étés, nous sommes attaqués par des aoutas, des bestioles quasi invisibles et proliférant dans les jardins, dits mal entretenus. Bon.
Ça c'est pas vrai.
J'ai essayé de tondre et arroser davantage. Ils aiment les herbes hautes et sèches, mais rien n'y fait. Ces acarias nous font la vie dure pendant tout l'été et plus possible de profiter du jardin tranquillement, car les morsures sont vraiment pénibles. Que me conseillez-vous? Merci d'avance et bientôt sur les ondes.
Disons le problème de la houta, c'est qu'il est souvent présent et même dans les jardins qui sont hyper
entretenus. Donc c'est fouet, voilà.
Cette bestiole acarien qui est un petit peu compliqué, comme dit, on est un peu sujet à se gratter, quoi. Hein.
Oui.
Voilà, mais je vais pas vraiment.
On n'a pas trop de solutions là, on est d'accord.
Cette petite araignée. Alors souvent le principe c'est que la houta est très présent sur les gazons qui sont secs, hein, bien sûr.
Ouais.
Alors il y a une technique que je faisais, mais je sais, j'avais peut-être pas de houta, hein, mais qui marche très bien, c'est vers un gazon. C'est de repiquer des menthes, la mélisse citronnelle, dans votre gazon.
C'est le bazar olfactif, Eric, c'est ça?
Ouais, c'est le bazar olfactif. Ouais. Et quand vous, de toute façon, la menthe ou la mélisse ne va pas se développer plus que ça parce que vous allez la tondre. Alors, c'est sûr que si vous voulez un gazon qui est de très bonne qualité, nickel, ça c'est un peu compliqué. Mais le fait de mettre de la menthe que vous tondez ou du serpolet, si vous avez des gazons plus secs et autres, ça va faire que toutes ces plantes un peu, je dirais, avec des huiles essentielles vont limiter les aoutas. Parce que c'est un des utilisations qu'on va faire quand on a des aoutas, c'est de pouvoir se mettre, je dirais, justement des essences de menthe et compagnie sur le corps pour éviter d'avoir des aoutas.
Bien, voilà en tout cas.
Mais je suis désolé, c'est vraiment, j'ai pas de situation. Je dirais même, il y a moins de aoutas quand on a un jardin qui est plus riche en biodiversité.
Bon. Eric, on va refermer cette page de questions-réponses. Écrivez-nous contact@monjardinbio.com pour toutes vos questions podcast. Eric, on va passer au dossier de la semaine consacré aux tubercules d'Amérique du Sud.
Oui, voilà donc les pommes de terre. Hein. Bon, celle-là est super intéressante parce qu'on la mange. Hein.
Oui.
Donc on peut la mettre bien avant, bien sûr, dans le sud de la France, hein, mais en principe c'est mi-avril à début mai. Hein. Donc voilà, comme ça on est tranquille, la floraison des lilas, mais les lilas sont fleuris depuis au moins 10 jours. Mais comme on ne pouvait pas planter les pommes de terre, donc on peut attendre, il n'y a pas de souci. Donc le système le plus simple, c'est pour les pommes de terre, c'est faire des tranchées de 15 cm de profondeur. On amène du compost ou du fumier très décomposé, ce qu'on appelle plutôt du compost de fumier. Et puis après, on dispose tous les 30 à 40 cm une pomme de terre. Voilà, si on a plusieurs rangs, on met tous les 40, 70, hein, voilà, 50, 70, c'est bien. Et ensuite, on rebute avec de la terre, l'idéal c'est de buter tout de suite comme chez les professionnels. Mais ça n'empêche pas que quand la plantule va sortir, on peut poursuivre le butage.
L'objectif est de stabiliser aussi et puis d'éviter les gros coups de vent, quoi, j'imagine.
Les gros coups de vent et surtout de bien tenir le pied. Et puis surtout que les pommes de terre, en fonction des variétés, il y en a qui poussent plus vers le dessous, il y en a d'autres plus vers le dessus. Donc ça évite comme ça de ne pas avoir des pommes de terre qui verdissent en présence de lumière. Bien sûr, ça n'empêche pas d'apporter des tongs de gazon fraîches une fois que vous avez buté sur le rang. Et entre les rangs surtout, vous pouvez mettre des tongs de gazon, voilà, ou des feuilles qui vous restent, des feuilles mortes. Comme ça, ça vous permet de maintenir une certaine humidité. Donc là, c'est tout simple. Ou vous avez l'autre système qui peut marcher, c'est vous mettez simplement sur votre sol qui a été débarrassé des plantes indésirables. Alors quand je dis débarrassé, c'est simplement enlever grossièrement, mais pour éviter qu'elles repoussent quand vous allez remettre un substrat dessus. Donc l'objectif, c'est vous mettez des pommes de terre disposées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les 30 cm, et sur des lignes séparées, des rangs séparés de 50 à 70. Et puis après, vous couvrez de compost ces pommes de terre, simplement sur le dessus, sur le rang, et puis vous rajoutez 30 à 40 cm de foin ou 20 à 30 cm de paille dessus, comme ça vous travaillez sous paille.
Donc ça veut dire que la patate se plante à peu près partout.
Oui,
Dans
globalement.
des gros pots, dans des grosses jardinières,
On peut faire, voilà, mais après, comme dit, des fois la pomme de terre qui est issue d'un nettoyage qu'on va faire de sa cuisine et qu'on avait 2-3 pommes de terre qui étaient montées en germe qu'on trouvait pas belles, et des fois dans le compost, elles vont repousser, ça va donner des tonnes de terre énormes, quoi.
Ouais, super. Donc à la limite, et bon, après c'est une question de rentabilité entre guillemets, la patate, est-ce qu'on fait de la patate ou pas? Bon, ça c'est chacun verrait.
Ouais. Avec, voilà, moi là-dessus je suis très clair, quand vous faites des pommes de terre vous-même, elles ont un autre goût. Quand vous allez chercher des pommes de terre nouvelles,
Elles sont
moi c'est
gorgées de
vraiment un
flotte,
dé...
quoi.
ouais, c'est quand même un délice, c'est quand même super bon, quoi.
Ouais. Donc on retient, on peut les mettre à peu près partout. Il se racontait à l'époque que les patates avant le gazon permettaient d'alléger la terre. Eric,
Oui.
c'est vrai ça ou c'est une
Bah alors
légende?
oui, oui et non, c'est-à-dire le principe c'est pas que ça allège, c'est que vous allégez la terre en butant le sol.
D'accord, oui.
La pomme de terre a fait pas
C'est
grand-chose.
l'action du jardinier, quoi.
C'est l'action du jardinier ou de la jardinière en butant qui fait que vous allez. On remue 3 fois la terre, hein, on remue avant pour mettre la terre, on les bute, on fait une deuxième fois, et troisième fois quand on déterre les pommes de terre, on remue de nouveau la terre. Donc ça permet à la fois d'aérer le sol de manière mécanique, enfin mécanique, manuelle, quoi.
Manuellement, mécanique, mais en tout cas voilà, on est d'accord. Donc ça c'est pour les patates. Et puis bah tu disais c'est une tubercule aussi, celle d'Alia à ne pas confondre.
Oui, bien. Alors ça, c'est la même chose, hein. C'est de faire des trous tous les 15 cm, hein, voilà. Et vous les espacez à peu près tous les 40-50 cm, alors bien sûr, pour les variétés naines. Et puis quand vous avez des super grands dahlias à 80 cm entre les plants, c'est vachement bien. Vous voyez, on est à peu près dans la même logique. Donc on place le tubercule dans le trou, voilà, tout simplement. Alors souvent, si vous avez des anciens dahlias, il faut bien mettre le moignon des anciennes tiges vers le haut. On voit tout de suite. Quand on a le pied, la partie qui pousse vers le haut qu'on a récupérée l'année d'avant. Ensuite, on maille de la terre, mélangée avec du compost, c'est mieux. Mais toujours bien décomposé, c'est ça le but du jeu. Et puis après, on peut le tasser un petit peu à la main, hein, parce que c'est toujours intéressant, ou avec le dessus du râteau. Et comme ça, vous avez fait vos plantations de dahlias, en sachant que dans certains secteurs, les dahlias, on ne les sort plus, même des fois dans l'est de la France. Vu les hivers qu'il y a, ça tient
Oui,
plus.
la question que j'allais te poser, est-ce qu'on les sort finalement en hiver ou pas?
Ouais, alors c'est pas le but du jeu, c'est pas de ne pas les protéger. On met simplement du compost ou du broyat dessus, un compost peu décomposé ou du broyat dessus, ou carrément un gros paquet de feuilles. Ça permet de les protéger, et faire une isolation par rapport au froid, mais ça suffit très très bien, quoi. Alors bien sûr, là-dessus, sur les dahlias, ne pas oublier de prévoir, surtout si vous avez des variétés dites de hauteur, hein, voilà, vous avez des dahlias qui sont monstrueux, souvent avec des fleurs qui sont très très grosses. Des fois, de prévoir, voilà, de quoi de les tuteurer ou de faire un maillage avec un grillage, c'est beaucoup plus simple.
Et Eric, je reviens 2 secondes sur la patate. Tu disais, des fois, on est en train de faire des patates et puis il y en a qui ont germé en cuisine. Là, les fonds de filet que
Oui.
vous avez, enfin, à partir du moment où il y a un germe, on peut y aller, c'est ça, Eric?
Oui, c'est ça. Bah, quand il y a des pommes de terre qui sont en germe. Bah quand il y en a des très longs, vous les enlevez, puis vous remettez. Il y aura peut-être assez de puissance dans la pomme de terre par rapport à un œil qui sera présent. Parce que vous ne pouvez pas oublier qu'une pomme de terre, c'est une tige. Hein. Donc voilà. Et bah, il y aura peut-être un œil qui va redonner une pousse, et ainsi de suite.
Donc on peut recycler, au lieu de les jeter, on peut
Bien sûr.
recycler ces patates
Oui.
très facilement.
Bah, il y en a que je sais qui récupèrent les patates de tout l'immeuble pour avant de les planter. Il faut une petite récupération, et des fois, avec ça l'évite d'acheter des plants. Aussi, faites attention, hein, je veux pas que vous dépensiez, c'est pas parce que je veux pas que vous dépensiez de l'argent, mais regardez bien le nombre de pommes de terre, hein. 100 plants de pommes de terre, c'est déjà beaucoup.
Oui.
100 plants de pommes de terre, rendez compte, en sachant que vous allez mettre 3 plants de pommes de terre au mètre, hein, donc ça vous fait 30 mètres de rang.
Et sur les dahlias, alors ça, bien sûr, chez les pépiniéristes, comment dire, chez les pépiniéristes préférés ou les horticulteurs. Et puis sinon, ça s'échange aussi les dahlias, Eric, j'imagine, non?
Oui, bien sûr, ça se. Alors des fois c'est un peu compliqué parce que des fois quand on fait des échanges, je sais plus c'est quelle couleur, quoi.
Ouais.
Mais voilà, alors des fois, il faut faire attention quand vous achetez des dahlias, là, de prendre des pieds qui ne sont pas pourris, quoi. Voilà, ça c'est important. Et puis après, les dahlias, ça se conserve à la cave, comme dans une terre un peu aérée, souple. Voilà, en sachant que, comme je vous disais, dans certaines régions, voire même des fois dans les régions les plus fraîches, on les maintient.
Et on va rappeler aussi que la patate s'associe très bien avec l'oignon, l'ail et l'échalote. Pourquoi? Parce que c'est une légume, c'est un espace gros volume. C'est ça, Eric?
Je suis désolé, Brice, c'est pas tout à fait
C'est pas
ça.
tout à fait ça? Pardon.
Non, là, l'oignon et l'échalote, c'est plutôt dans le jardin
Pardon,
ratatouille.
jardin ratatouille. Oui, mais la patate et
Ça
l'oignon.
s'associe avec le haricot vert, le petit pois et.
Pardon. Oh bah je
Non,
refais.
mais,
Oh.
non mais
Ça
Brice, c'est rien,
fait juste
c'est.
4 ans qu'on bosse ensemble. Pardon. Non, mais parce
Non,
que
mais
tu
c'est
vois.
rien,
Non, mais parce que
c'est.
je
Disons
regarde.
qu'une patate fermentée donne une boisson très forte, et donc c'est pour ça. Mais non, non, là, donc la pomme de terre, vous pouvez mettre par exemple 2 rangs de pommes de terre. Prévoir des arceaux pour mettre des haricots rames à proximité, après des haricots nains et ainsi de suite.
Bon.
Attention, hein, c'est comme le dahlia, les pommes de terre, il faut les mettre quand même à un endroit où il y a du soleil, parce que s'il y a trop d'ombre, vous risquez d'être voilà, rempli de maladies. Hein, donc,
Donc oui, il faut que ça sèche, quoi. C'est ça l'idée.
ouais, il faut que les feuilles puissent se ressuyer après une pluie. Hein.
Est-ce qu'on a fait le tour de notre tubercule d'Amérique du Sud?
Oui, voilà, on en reparlera, bien sûr, hein, mais ça me semblait important de parler de ce légume qui est quand même très intéressant, bien que souvent c'est pas si cher que ça, globalement, mais c'est plutôt le côté coup de cœur gustatif, hein, qui fait que quand on mange ses pommes de terre, des fois on est même déçu par la quantité qu'on récolte, mais c'est pas grave, le côté c'est sympa à manger, quoi.
Eric, on va passer au faux dicton.
Mais bien sûr, alors bien sûr, bon, ça même les plus jeunes
Oh,
comprendront.
pas sûr. Pas sûr.
Celui de la semaine dernière, il y en a qui n'ont rien compris, parce que j'en ai vu des gens, ils m'ont dit, putain, mais t'es de quelle génération, toi? Bon, celui-là, ils vont, voilà. Un jardinier qui a 100 patates n'est pas forcément inconnu.
Voilà, parce que sans patate, inconnu, Pascal Légitimus.
Voilà, avec les trois frères, hein, donc voilà.
Attends, Légitimus, Bernard Campan et Didier Bourdon, je crois. Hein.
C'est
C'est
ça, ouais,
ça.
c'est ça, donc c'est dans les trois frères.
Bourdon, pardon, Bourdon.
Ouais, avec les trois frères,
Avec les
donc
trois
voilà, sans
frères. Une
patates.
comédie des inconnus, c'est ça.
Voilà.
Bien. Eh ben, merci en tout cas, Eric, pour tes précieux conseils. Rendez-vous sur Instagram, sur Facebook, sur notre blog, sur la newsletter. Oh, on vous prépare une autre surprise. On en parlera dans un instant. Merci à tous ceux qui sont venus nous rendre visite à Mulhouse, d'ailleurs. C'était effectivement très sympa de vous rencontrer. En plus, on a eu un temps très beau, on va pas dire magnifique. On a vraiment cramé samedi, il faisait 28 degrés avec beaucoup de soleil. Et c'est vrai que tout ça a réveillé et le parc était quand même hyper coloré et vraiment très beau. Donc merci pour ceux qui sont venus. Rendez-vous la semaine prochaine. Mais avant ça, le mot de la fin, Eric, dont je te laisse.
Là, c'est simplement un mea culpa. Toutes mes excuses auprès de François parce qu'il n'en peut plus de m'écouter tous les samedis matins. Podcast qui est écouté par sa femme Peggy, il n'en peut plus. Il me l'a dit en direct, de vive voix, j'en peux plus.
Ah,
Donc,
tu passes des messages
voilà.
perso?
Ouais, maintenant, il me dit qu'il n'en peut plus de m'écouter le samedi matin. Donc, voilà, c'est comme ça.
Bon, bah.
Laisse-moi cette petite heure technique avec ton épouse et comme ça.
Eh bah, écoute, il peut écouter. Il y a plein, plein, plein d'autres podcasts,
Oui, il y a plein de
ton
choses,
pote.
hein, mais c'est
On
quand
peut faire
même
ça.
celui-là qui est le plus
Bon,
sympa.
bah, ça marche. À la semaine prochaine, Eric. Merci beaucoup. Salut, salut.
Salut, salut, Brice!